France Inter, le 7-9, intervenu.
01 45 24 7000, Paul nous appelle de je ne sais pas d'où. Bonjour Paul.
Bonjour, je suis de la Courneuve.
Eh bien, bienvenue.
À 93.
Sur l'antenne de France Inter, nous vous écoutons.
Bon, écoutez, cette campagne est difficile. Je pense que le présidentialisme dans lequel nous baignons est mauvais. Il pousse aux égos. C'est des égos qui s'affrontent, même s'il y a des programmes, même s'il y a des projets. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'enjeu entre les quatre, c'est qu'on a le danger, pour moi, de Marine Le Pen. Macron, pour moi, c'est vraiment aussi un ovni. Et je trouve qu'il y a deux candidats à gauche. Et il y a eu une vraie campagne des deux côtés. Et je pense que dans la situation actuelle, même si les sondages ne sont pas une religion sacro-sainte, ça donne une indication. Je pense que Benoît Hamon, pour que la gauche soit au deuxième tour, serait heureux, aurait une bonne idée de se retirer. Mais c'est trop compliqué parce qu'il y a des égos, c'est difficile. Mais ça, pour moi, ce serait une chance pour que Mélenchon et que la gauche soit au deuxième tour.
Merci Paul. Alors je dois dire, j'ai toutes les questions qui s'affichent sur mon écran au standard d'Inter. Il y a beaucoup d'appels qui vont dans ce sens, enfin qui vous interpellent, Benoît Hamon, sur le thème est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ? Est-ce que le mouvement naturel ne devrait pas, pour porter un candidat de gauche au second tour, avoir un mouvement comme vient de l'indiquer Paul ?
Bon, d'abord, bonjour monsieur. Merci pour cette question. Moi, j'ai fait campagne et je ferai campagne jusqu'au, je veux le dire, évidemment jusqu'au 23 et je le souhaite jusqu'au 8. Nous avons eu un débat qui est un débat intéressant qui a montré que nous avions aussi des désaccords. Et des désaccords qui ne sont pas minces. On a évoqué à l'instant la question de la politique étrangère. Mais moi j'ai un désaccord et je veux le dire ici clairement et aux électeurs qui me disent oui mais il faut faire un choix là encore tactique. Moi je ne veux pas réouvrir la discussion avec Monsieur Poutine sur la question des frontières. Je considère aujourd'hui que nous allons enclencher un cycle de disputes territoriales qui me semble mauvais et pour l'Europe et pour nos intérêts.
Et à ceux qui disent c'est pas un problème majeur dans cette présidentielle, un problème.
Mais qui ne voit pas aujourd'hui que nous avons des États-Unis qui nous déstabilisent? Pourquoi? Parce que nous ne savons pas exactement ce qu'ils veulent faire et qu'ils changent d'avis régulièrement. Il y a des prétentions, voire même un caractère assez belliqueux à la politique étrangère qui est celle de Monsieur Poutine. Une Europe qui n'a jamais été aussi faible et jamais aussi menacée de dislocation. Et à cette étape, nous voudrions rapatrier nos intérêts à l'intérieur de l'Hexagone, réouvrir des discussions en position de faiblesse avec M. Poutine. Moi, je le dis, ces questions-là ne sont pas des questions neutres. Dans une élection présidentielle, ça n'est pas secondaire, périphérique, que d'évoquer ce que sera demain la politique étrangère de la France et sa capacité à porter ou à être le pilier de la construction européenne. Si on pense que c'est périphérique, alors effectivement, continuons, allons à cette élection en se disant on va faire un vote qui est un vote plaisir ou un vote rage ou un vote tactique. Moi, je considère que dans une période de crise, j'ai beaucoup utilisé, on me l'a reproché, l'étymologie pendant cette campagne, mais crise, il y a deux étymologies. Crisis en latin, la maladie. Crisis en grec, le jugement. Oui, nous sommes amenés à prendre une option, à nous prononcer, à juger de la situation. Je considère que ce monde qui s'éteint, il peut ouvrir sur des perspectives radicalement différentes. Eh bien, dans ma perspective, il n'y a pas la moindre prise de risque. Je ne jouerai pas, pour faire simple, l'Europe à la roulette russe. Voilà. Je ne la jouerai pas, l'Europe à la roulette russe. Or, je considère aujourd'hui que les Russes pèsent de trop dans cette campagne. Ils pèsent de trop à travers les prises de position de monsieur Fillon. Incroyable! Incroyable que l'on puisse dire cela. Vouloir faire une coalition avec monsieur Bachar el-Assad.
Il l'a déjà dit, depuis deux ans.
Incroyable. Au débat où je lui avais posé la question lors du débat à 5.
Quand il y a eu un nouveau bombardement chimique.
Non, mais c'est cela. On est dans une situation où, aujourd'hui, on hiérarchise l'horreur. Moi, je ne fais pas de choix entre Daesh et Bachar el-Assad. Ils sont responsables aujourd'hui d'une horreur qui justifie que nous nous mettions à l'écart de ces deux parties et que nous les combattons en l'occurrence pour la France en Irak, Daesh. Mais au-delà de cela, la solution politique ne peut pas passer par le maintien de Bachar el-Assad. Accepter ce compromis-là est une folie. Mais je vais même plus loin. Pourquoi Poutine nous interroge sur nous-mêmes ? Pourquoi est-ce que c'est un miroir, finalement? Quand nous acceptons aujourd'hui de dialoguer avec lui alors qu'il protège M. el-Assad, quand nous, le dialogue existera, il y a de la diplomatie, mais quand nous voulons nous coaliser avec lui, nous coalisons aussi avec un homme qui protège M. Kadyrov, qui lui déporte les homosexuels?
En Tchétchénie.
Ah non, mais où jusqu'où cela va-t-il? Jusqu'où acceptons-nous, finalement, d'éroder les principes qui sont ceux dont on veut dire en France qu'ils sont les valeurs que nous défendons? Bien, moi, je considère qu'à l'aune de ce dialogue avec les autres, l'on peut mesurer aussi ce qu'est la densité, l'intensité et la fermeté des convictions et des valeurs ici. Ici, dans le dialogue qu'on a avec les autres, on mesure l'intensité de nos valeurs ici. Voilà
on,
ce que j'ai à dire.
On entend que vous avez des désaccords majeurs avec Jean-Luc Mélenchon
sur ces questions-là. Oui. Mais je veux le dire jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je comprends les électeurs de gauche. Mais il faut aussi savoir que la politique, c'est pas de l'arithmétique, et que ceux qui votent Benoît Hamon et qui voteront nombreux Benoît Hamon, ils demandent à Benoît Hamon de rester à tout prix parce qu'ils se reconnaissent dans la perspective et le projet politique que je porte. Et je crois aussi, puisque Monsieur l'avait évoqué, que ce serait c'est compliqué à la fois de critiquer les institutions de la Ve République, l'ego et le narcissisme, et de renvoyer finalement une question de personne. Oui, moi je revendique un nous, l'intelligence collective. On m'a même dit, finalement, vous n'êtes pas adapté à l'élection de la Ve République. Bien, je ne peux pas, finalement, aspirer à porter cette intelligence collective et à tout ramener à moi et à un choix de personne. Donc je crois qu'il y a d'abord un choix politique à faire et que ce choix est un choix collectif. J'attends le 23 avril avec confiance parce que je pense que ce choix politique, il sera réalisé par des millions d'électeurs de gauche en faveur du projet que je porte et de la candidature qui est la mienne.
Patrick nous appelle de la Drôme. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Monsieur Hamon, je voudrais vous poser cette question. Pourquoi
bonjour, monsieur.
Bonjour, excusez-moi. Pourquoi ne laissez-vous pas tomber le PS et ainsi le faire disparaître financièrement en soutenant la candidature de Monsieur Mélenchon, alors que le PS vous a viré il y a 2 ans, vous a trahi après la primaire et ne respecte pas le vote des 2 millions de votants de la primaire PS?
Merci. Voilà. Alors, le PS n'a pas viré Benoît Hamon, mais vous étiez dans le gouvernement, en tout cas, voilà. Vous êtes sorti du gouvernement. Oui. Ça, c'est autre chose, mais...
Non, mais bonjour, monsieur.
Est-ce que vous a manqué des soutiens politiques aussi?
Oui, il m'en a manqué. La question, c'est, m'aurait-il véritablement aidé ou pas? Je ne sais pas. Moi, vous savez, on fait pas boire un âne qui a pas soif. Donc, je pousse personne à me soutenir. Ce que je veux simplement dire, c'est que tout ça n'est pas une affaire d'appareil. On voit bien que aujourd'hui, la recomposition, elle est en marche, mais elle n'a pas commencé avec l'élection présidentielle. Elle poursuit un processus assez ancien. Moi, je veux le dire simplement, c'est que soit ce vote, là encore, c'est intéressant la question, c'est un vote revanche. Mais j'entends des gens qui disent « je veux prendre ma revanche par rapport au PS ». Ok. Prenez votre revanche par rapport au Parti Socialiste, qu'en restera-t-il? À la fin, le fait est que nous nous détournons de l'essentiel. Est-ce qu'on fait un vote pour ou un vote contre? Et moi, je le redis avec la même force, une élection présidentielle ouvre un processus d'un minimum de 5 ans où nous avons la possibilité de faire un vote pour. La grande révélation de cette campagne, c'est la jeunesse. Elle a été partout, dans tous les meetings. Je ne suis pas le seul à avoir finalement profité de cet effet incroyable qui est l'irruption de la jeunesse dans le débat politique en France. A-t-elle eu la place qu'elle devait avoir finalement dans le débat politique? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que moi j'ai posé la question du travail, du revenu universel, de penser la manière dont on financera la protection sociale demain. Est-ce qu'on peut se dire, là encore les électeurs de gauche, qu'on va continuer avec les vieilles solutions qui étaient les nôtres, que l'on soit de la gauche radicale ou de la gauche social-démocrate des 20 dernières années? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et si nous voulons laisser, nous, un monde dans lequel nos enfants sont au moins aussi protégés que nous, eh bien, il faut penser de nouvelles manières de financer la protection sociale, une nouvelle manière de penser le travail, d'où le revenu universel d'existence. Et moi, je crois profondément que les seules innovations du débat politique étaient dans le projet que j'ai porté. Parce qu'après, j'ai eu l'impression de revivre, à certains égards, les campagnes de 2007 et 2012 en écoutant mes rivaux. C'est comme s'il y avait trop de revanches à prendre. Moi, je ne veux pas être sur cette page qui se tourne. Je veux écrire la nouvelle page. Et je le dis aux électeurs de gauche, réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous avons là la possibilité d'écrire une nouvelle page. Et une nouvelle page qui nous projette avec un imaginaire puissant, cohérent, vers l'avenir et qui ne se contente pas seulement de prendre une revanche les uns sur les autres. Moi, cela, objectivement, finalement, le couple Hollande-Mélenchon matrice beaucoup le débat de la gauche. Extirpons-nous de cela. Sortons-nous de cela. Et moi, je vous le dis, il y a des rassemblements qui sont des rassemblements politiques que nous pouvons construire autour d'un objectif qui a toujours été celui de la gauche. Faire en sorte que la majorité sociale la majorité sociale redevienne la majorité politique. Que celles et ceux aujourd'hui qui vivent de leur travail, retraités, chômeurs, salariés, qui ont besoin du travail, eh bien, redeviennent la majorité politique. C'est mon objectif.
Françoise de Paris. Bonjour Françoise.
Bonjour, voilà, je voulais d'abord remercier Benoît Hamon pour la qualité de la campagne qu'il a conduite et pour l'espoir qu'il a suscité pour les gens de gauche, les vrais. Et je voulais savoir si sur la fin de cette campagne, vous n'avez pas quelques regrets sur le fait d'avoir joué un peu avec les codes de la campagne que nous avons eue. On a bien vu que dans les débats, on retenait les petites phrases des uns et des autres. On retenait aussi l'espace occupé dans la presse, les unes des journaux avec l'espace privé, etc. Et je voulais juste savoir si vous n'avez pas de regrets de n'avoir pas joué avec ces codes-là.
Merci Françoise. Benoît Hamon.
On fait tout, dans une campagne quand viendra l'heure des bilans, le 8 mai, on fait tous des erreurs dans une campagne, il y a des choses qu'on peut toujours mieux faire, et moi j'apprends et j'accepte que ce qu'il me reste à apprendre en général. Je ne suis pas omniscient, pas davantage que je suis omnipotent, mais je me réjouis d'avoir encore à apprendre et beaucoup plus. Mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il me semble aujourd'hui qu'une démocratie mature, adulte, elle suppose d'arrêter de penser que l'un des 11 autour de la table est le génie que la France attendait. Il n'y en a aucun, honnêtement. D'abord, il n'y en a jamais eu. Sous la Ve République, il y a eu des présidents brillants qui ont eu des moments qui étaient des moments de gloire, mais aussi des moments un peu plus douloureux. Donc, objectivement, les hommes providentiels, ça reste une sorte d'anomalie française en démocratie qui veuille qu'on aille se chercher le monarque qu'on va élire. Bon, moi, je n'aspire à porter aucune couronne. Sinon à dire, là encore, que si nous avons une constitution qui dit que nous sommes le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, il faudrait que le peuple se saisisse de cette élection pour dire ce qu'il veut, lui, pour lui. Et pas simplement installer un monarque à la tête de la République.
Vous avez été trop normal, c'est ça, Benoît Hamon ?
Non, mais je ne suis pas trop normal. Je ne crois pas que les sujets que j'ai portés soient des sujets normaux. On m'a même reproché qu'ils soient bizarres.
Normal
je parlais de l'écologie,
dans
de
votre comportement, dans votre refus de,
mais je, non, mais
du marketing.
Je, c'est pas l'heure des bilans. Moi, je ne fais pas le bilan de ma propre campagne. Je ne commande pas ma campagne. J'en dirai un mot après. Mais il me semble qu'on le voit, beaucoup de choses qui s'éteignent. Et des lumières qui s'éteignent, et je suis heureux d'en éteindre quelques-unes. Mais maintenant, il faut se préoccuper celle de ce vieux monde politicien qui nous a proposé finalement des débats de maigre qualité, a accepté toutes les compromissions, a fini par ne parler que de la question identitaire, a dévoyé complètement le principe de laïcité. Tout ça, est très frappant quand même dans le climat qui est celui qui est le nôtre. Et moi, je le redis, il me semble aujourd'hui que le peuple français est mûr, il est souverain, il reste le seul souverain, il est mûr pour opérer cette grande transformation, et je suis disponible pour cela. Donc merci pour cette question et merci pour les compliments pour la campagne, sur eux, de ces mots de madame. Merci beaucoup.
C'est pas fini, Benoît Hamon.
Pour les compliments, j'espère, monsieur Cohen.
Pour les questions d'auditeurs, même si on en a beaucoup, beaucoup ce matin au standard, il y a aussi des gens qui nous regardent sur le site en vidéo, donc ils vous ont vu, Laurent qui vous a vu, l'homme de terrain Benoît Hamon sait où est le café dans le studio, on vous a vu faire le chemin jusqu'au chariot de café, voilà, exactement. Dans un instant, on va accueillir Augustin Trapenard et retrouver Frédéric Becbédé avec sa bande.